Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisco, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Mouvement de contestation en Algérie. Les Algériens s'apprêtent à dire à l'armée ce vendredi, jour hebdomadaire de manifestation, si la proposition des leaders militaires du pays d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika du pouvoir suffit à calmer la contestation contre le régime. Pour ce sixième vendredi de protestation de masse, depuis le 22 février, de nombreux contestataires se rassemblent à Alger. Après que plusieurs fidèles du président Bouteflika, dont le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, l'ont exhorté cette semaine à quitter le pouvoir. En Libye voisine, la crise migratoire continue. L'ONG humanitaire Médecins sans frontières, MSF, a dénoncé les conditions de détention extrêmes et les taux alarmants de malnutrition parmi les réfugiés et migrants gardés dans un centre de détention à Tripoli, la capitale. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
MSF affirmait que les détenus ne reçoivent qu'un repas tous les deux ou trois jours et que les nouveaux arrivants peuvent attendre jusqu'à quatre jours avant de recevoir de la nourriture. L'ONG indique que près du quart des personnes incarcérées dans le centre de Saba souffrent de malnutrition. Un tiers d'enfants et d'adolescents parmi les détenus ont 50% plus de risques de souffrir de malnutrition grave. La situation est extrêmement préoccupante et la nourriture est systématiquement identifiée comme la principale cause d'anxiété dans ce centre, a affirmé Keith Keus, conseiller santé de MSF pour la Libye. L'ONG exhorte les autorités libyennes et la communauté internationale à agir en urgence pour mettre fin aux conditions inhumaines et dangereuses dans les centres de détention libyens.
Afrique centrale maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à voter aujourd'hui une résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO, la mission onusienne, en République démocratique du Congo jusqu'au 20 décembre, avec des effectifs inchangés selon le projet de texte diffusé jeudi. Si le Conseil de sécurité entérine cette résolution comme c'est plus probable, il ne suivrait pas les recommandations d'un récent rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, proposant une réduction d'environ 2000 membres de la MONUSCO. Les Nations Unies sont présentes en RDC depuis une vingtaine d'années et la MONUSCO représente l'une de ses missions les plus coûteuses avec un budget annuel d'environ 1,11 milliard de dollars. RDC toujours, le président Félix Tshisekedi a levé la mesure suspendant l'installation du nouveau Sénat à Kinshasa. Le leader congolais est satisfait du rapport préliminaire d'enquête sur les allégations de corruption de grands électeurs, selon un communiqué de la présidence. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le contenu du rapport du procureur général près la Cour de cassation n'a pas été dévoilé. Le communiqué de la présidence de la République réaffirme simplement la détermination de Félix Tshisekedi à combattre la corruption et considère que plus rien ne s'oppose à l'installation du Sénat. Avant la levée de cette mesure, le président de la République a eu une réunion de concertation avec les procureurs généraux près les cours d'appel à travers toute la République sur les allégations de corruption relevées autour de l'élection des sénateurs. Il a, selon le communiqué lu à la télévision nationale, félicité les magistrats pour le travail abattu, en même temps qu'il les encourage à les faire aboutir. Pour rappel, le 18 mars dernier, Félix Tshisekedi avait, à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle, décidé de suspendre l'installation des sénateurs élus et de reporter l'élection des gouverneurs. Des décisions prises notamment après la débâcle de son parti au sénatorial et une écrasante victoire du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Malgré une vingtaine de députés provinciaux dans le pays, en effet, l'UDPS Tshisekedi n'avait remporté qu'un seul siège au Sénat sur les 100 à pourvoir. Un score qui avait provoqué un tollé, poussant les militants de ce parti à manifester dans les rues, causant la mort d'un policier et plusieurs dégâts matériels. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Crise anglophone au Cameroun, au moins 170 civils ont été tués dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le mois d'octobre. Chiffre rendu public par Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, qui accuse aussi bien les forces gouvernementales que les séparatistes de commettre des exactions. Morgan Guiriec a joint Philippe Bolopion, porte-parole de Human Rights Watch à New York.
Écoutez, il y a de nombreux témoins qui ont rapporté qu'à de nombreuses reprises, lorsque les forces de sécurité, notamment la gendarmerie, arrivent dans un village ou dans une ville pour lutter contre des groupes séparatistes, même s'ils ne sont pas présents, les forces de sécurité camerounaises commettent des exactions graves. Dans certains cas, ont tué des gens, ont incendié des dizaines et des dizaines de maisons, ont battu et arrêté des personnes sans raison. Et donc, on crée un climat de peur et de violence qui est totalement contre-productif si les forces de sécurité espèrent gagner la confiance des populations locales.
Des exactions ont également été relevées du côté des séparatistes. Quelles sont-elles ?
Absolument, les groupes séparatistes commettent et continuent à commettre de nombreuses exactions. Ils ont notamment pris en otage l'éducation des enfants dans les régions du nord-ouest, ouest du Cameroun, en terrorisant les élèves, en menant de nombreux kidnappings d'élèves, de professeurs, de fonctionnaires. Ce genre d'exactions décrédibilise complètement la cause qu'ils prétendent défendre.
Quelles sont les recommandations de Human Rights Watch ?
Nous pensons que le gouvernement camerounais doit de toute urgence rétablir l'état de droit dans ces régions. Les autorités camerounaises doivent mener des enquêtes crédibles sur les exactions qui ont été commises. Elles doivent punir les personnes qui sont responsables et tout simplement mettre un terme à ces agissements qui, une fois encore, sont contre-productifs et ne font que mettre de l'huile sur le feu. Les partenaires internationaux du Cameroun, et notamment la France, doivent aussi s'assurer qu'elles ne facilitent pas ce genre d'exactions lorsqu'on mise des soutiens financiers ou en termes d'opérations sécuritaires aux forces camerounaises. Nous pensons aussi que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU devrait demander une enquête internationale. Il serait aussi souhaitable que le Conseil de sécurité de l'ONU soit briefé sur la situation et dise de manière très claire que les personnes qui commettent des violations graves des droits de l'homme, quel que soit le camp dont elles viennent, eh bien, risquent de faire face à des sanctions.
Philippe Bolopian, porte-parole de Human Rights Watch à New York. Réaction du gouvernement camerounais, bien que les soldats présents dans les régions anglophones ont été victimes d'attaques des séparatistes, ils n'ont cessé de protéger les personnes et leurs biens. Et en aucun cas, les forces gouvernementales n'ont incendié des maisons ni tiré indistinctement sur ses citoyens, souligne Yaoundé. Au Tchad, toujours pas de réseaux sociaux dans le pays où Facebook, Twitter ou encore WhatsApp sont coupés depuis un an pour des raisons sécuritaires, selon les autorités. Une situation dénoncée jeudi par plusieurs associations qui parlent de censure.
Cela fait un an, jour pour jour, que les réseaux sociaux sont bloqués au Tchad. Une situation déplorée lundi par Julie Owono, présidente de l'association Internet sans frontières. Celle-ci réclame, avec plusieurs autres associations et avocats tchadiens, la levée de cette restriction. Toutes ces associations exhortent le gouvernement tchadien à mettre fin à une mesure de censure qui, disent-elles, viole le droit à la libre expression et entrave les opportunités pour la jeunesse tchadienne. Fin mars 2018, les principaux réseaux sociaux du pays étaient devenus inaccessibles au moment où un mouvement de contestation s'élevait contre un changement de constitution visant à renforcer les pouvoirs du président du Tchad. Un pays dirigé depuis 1990 par Idriss Déby Itno et où le pourcentage d'accès à Internet n'excède pas 5%. Fin août, un collectif d'avocats avait porté plainte contre les deux principales compagnies de téléphonie mobile du pays, Airtel et Tigo, qu'ils poursuivent pour avoir bloqué l'accès aux réseaux sociaux. Mais hier, la cour d'appel de N'Djamena a confirmé le rejet de cette plainte. L'accès aux réseaux reste toutefois possible à travers les réseaux privés virtuels VPN. Mais leur coût est prohibitif, assure Julie Ono, dont l'association a récolté des fonds pour permettre à certains journalistes et défenseurs des droits de l'homme d'y avoir accès.
Merci John Lindon. Et pour terminer l'actualité américaine, un an de répit pour des centaines de ressortissants libériens des États-Unis. Le président américain Donald Trump vient de proroger une mesure leur permettant de continuer de vivre et de travailler aux États-Unis. Michel Joseph.
Ils sont quelque 4 000 à bénéficier du Deferred Enforced Departure ou renvoi à exécution différée, une mesure humanitaire leur permettant de résider temporairement aux États-Unis après avoir fui la guerre et les catastrophes comme l'Ebola dans leur pays. L'année dernière, le président Trump leur avait donné jusqu'au 31 mars 2019 pour organiser leur retour au Libéria. Mais jeudi, le chef de l'exécutif américain a dit avoir changé d'avis. La réintégration de ces Libériens dans la vie civile et politique de leur pays sera une tâche complexe, a-t-il écrit dans une note au secrétaire d'État et au ministre américain de la Sécurité intérieure. Il ne faut pas compromettre les efforts du Libéria pour asseoir la démocratie et la stabilité après la guerre, a expliqué Donald Trump.
Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.